Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le titre de cette méditation, tel que le programme l'affiche, que nous dit la Bible sur les jeunes. Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle, c'est ce que Dieu dit qui nous intéresse. À de multiples reprises, Dieu va à la rencontre des jeunes. Nous l'avions évoqué, comme le Saint-Père l'évoque dans ce document qui nous sert de guidane pour nos méditations, pour notre séjour. Eh bien, toute une série, une dizaine, une douzaine de personnages jeunes que nous allons un petit peu négliger. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. Dans le Nouveau Testament, le Christ, pareillement, a des contacts, a des rencontres très particulière. Dieu s'intéresse aux jeunes. Le Christ, qui est Dieu, s'intéresse aux jeunes. Tout comme les papes qui s'intéressent aux jeunes. Une des activités phares de toutes les rencontres des papes dans les voyages apostoliques, c'est souvent, très souvent, l'activité peut-être la plus importante et la plus agitée, celle des jeunes, celle sur laquelle peut-être le pape mise le plus, certainement aussi, fidèle à l'exemple du Christ. Cependant, en introduisant cette méditation, nous disons, et nous le répéterons plein de fois, ne réduisez pas la jeunesse à une question d'âge. Le pape le dira plusieurs fois, comme le Christ, suivant l'exemple du Christ, Dieu cherche des cœurs jeunes, des volontés jeunes, et renouvelées, qui rajeunissent. On va le voir un peu pendant la méditation, suivant ce que le Christ, ce que l'Ancien, mais surtout le Nouveau Testament nous dicte. Parce que un jeune immature, un jeune qui est gamin, un jeune qui est inconstant, un jeune qui est mou, un jeune qui est égoïste, etc., eh bien, c'est triste. Et à la limite, personne n'en veut. Aucun intérêt, si on en parle de façon utilitariste. Aucun intérêt d'une personne qui, quel que soit son âge. Donc ce n'est pas une question d'âge, d'années. L'une des choses intéressantes, justement, lorsqu'on parcourt dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de l'Église, dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église, c'est de voir que ce qui est commun chez toutes ces personnes-là, qui sont jeunes mais très mûres et très centrées, les idées bien fixes, ils savent très bien où ils vont. Et nous voyons que les jeunes que la Bible met en valeur sont soit fantastiques, soit néfastes. La Bible dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Soit exemplaires et admirables, soit lamentables. Donc, nous allons directement au Nouveau Testament. Nous faisons ce choix de nous attarder plutôt sur ce que Jésus lui-même met en exergue. Et ce, de deux manières, qui seront les deux points de notre méditation. Jésus nous fait réfléchir à la jeunesse de deux manières. A, B. A, ce sera en parlant. Jésus parle des jeunes, surtout dans les enseignements paraboliques, notamment. Et les paraboles, nous allons nous centrer sur une ou deux, faute de temps. Soit, seconde manière, n'est-ce pas, c'est dans les rencontres. Il en rencontre des jeunes, en chair et en os, dans ses pérégrinations en Palestine, vers le nord, vers le sud. Et la panoplie est riche et variée. C'est pourquoi on ne prétend pas du tout aller trop vite en disant deux mots sur chacun. On s'arrêtera pour réfléchir. Donc, grand A, petit A, peu importe. Première partie, les paraboles. Le Christ qui nous enseigne. Je vais à l'évangile de Saint-Luc. Le plus jeune de deux frères, je n'ai pas besoin de lire le passage, tu as compris déjà, le plus jeune des deux frères quitte et s'éloigne de la maison paternelle. C'est un jeune. Il rêve logiquement d'autonomie, mais cette autonomie, lorsqu'elle n'est pas bien ciblée, s'éloigne de la maison du père, là où il y a tout le bonheur, toutes les bénédictions, tous les avantages, s'éloigner de la maison du Père, on sent tout de suite que c'est une fausse manip. Et cette autonomie, ce rêve d'autonomie, devient vite libertinage et débauche. C'est le Christ qui nous donne une leçon sur la jeunesse, ne l'oublions pas, un enseignement du Christ, donc qui nous concerne nous tous. Et vous, en plus, en étant jeune, en âge, je vous dis pas, il faut l'écouter avec un grand intérêt. Cette soif d'autonomie, attention, parce qu'elle devient vite, dit le Christ, libertinage, débauche. Et automatiquement, devient solitude et pauvreté à tout point de vue, misère. Le tableau est sombre. Et le pape qui évoque, nous nous inspirons du texte du pape, même si on le suit plus ou moins de près, peu importe, mais les idées, nous essayons de les extraire. Le pape dit qu'un cœur jeune est un cœur, il tire cet enseignement de la parabole du Christ. Il dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Très important dans cette parabole, c'est qu'un cœur jeune, comme c'est le cas de ce fils prodigue, hein, est capable de réagir, est capable de se relever et d'apprendre de la vie. Un enseignement puissant de la parabole que le Christ nous dit, nous livre. Un jeune est disponible au changement. Une personne qui ne change pas, c'est une personne qui est déjà ankylosée, coincée, pétrifiée, momifiée, fossilisée. Allez. Nous sommes invités à apprécier donc la capacité et la beauté de la contrition et de la conversion. Un gamin ne comprend rien du tout à la demande de pardon. C'est une punition, il attend la punition, il attend la correction, il attend, il comprend pas du tout la libération de la conversion. Et le pape met le doigt là-dessus parce qu'il dit le Christ veut nous faire comprendre l'attitude de ce jeune homme qui commet beaucoup de péchés, d'accord, mais qui va repartir, qui va rebondir et qui va devenir vraiment très aimable et très admirable parce qu'il revient à lui-même. Nous sommes invités à cela. Tout comme dans la même parabole, son frère, un autre jeune en âge, mais celui-ci a déjà un cœur de vieux, tout en étant jeune. Avoir une, deux, trois, cinq années de plus, il n'est pas vieux. Donc, mais son cœur, il est très vieux, rabougri. Il est possédé par l'avidité. J'allais vous taquiner, mais je ne le fais même pas. Nutella, confiture, là, je ne sais pas quoi, et pas l'autre. Hein ? certaines choses avec plus ou moins de parcimonie. Donc possédé par l'avidité, possédé par l'égoïsme, il est possédé cette année par l'envie. Et Jésus fait l'éloge du pécheur repenti. Nous devons demander, nous pouvons demander au Seigneur, n'est-ce pas, de nous faire don d'un cœur toujours jeune, quel que soit notre âge. Prie sincèrement, demande au Seigneur de te faire comprendre ce que cela peut vouloir dire. Essaie de trouver des applications pour dire, si je suis souvent égoïste, si je suis souvent avide, dans cette avidité, dans l'envie, dans les comparaisons, dans les critiques, dans les jugements, dans l'esprit négatif et tout ça, eh bien, la jalousie. Mais là, on dit, mon cœur, j'ai les éléments suffisants pour faire un examen de conscience très beau sur l'enseignement du Christ. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux, toi, ici présent parmi nous, rassemblé pour prier? Tu es là et tu es en train de me parler par ce que l'abbé dit, ou parce que tu touches dans mon cœur, parce que tu me dis que telle ou telle chose, que même peut-être l'abbé ne dit pas, mais j'ai besoin de la comprendre et de la mettre en pratique. Demandons donc, demandons sérieusement dans notre prière d'être dépouillé du vieil homme qui niche certainement dans un recoin de notre cœur à nous tous, là-dedans. Parce que nous tous, nous devons revêtir l'homme nouveau. Accorde-nous, Seigneur, la vraie jeunesse. Saint José Maria, tous les jours, en se préparant à la messe, en se préparant à la célébration de la messe, répétez ces mots que la liturgie, depuis 3 ou 4 siècles, disait en avançant vers l'autel. Le Dieu qui rajeunit mon cœur, qui me redonne la jeunesse, qui me permet de parler, d'être battant, d'être disposé pour toutes les qualités qu'un jeune qui orne, qui décore théoriquement un jeune, tout jeune, qui est disposé à donner, à se donner, qui n'a pas peur de donner, de se donner. Le pape dit que la vraie jeunesse, c'est avoir un cœur capable d'aimer. Un cœur qui vit de la charité. Un cœur qui pense aux autres, qui est penché vers les autres, qui est attentif aux autres. Ça, c'est un cœur jeune. Une personne âgée, elle a mal partout. Elle a son fauteuil. Et tu le mets, tu changes de fauteuil, il n'est pas bien. Tu changes de lit, il n'est pas bien, il dort pas. Tu changes d'oreiller, ça va pas. La température change, il étouffe, etc. Les changements, tout changement, non, il se préserve, il se garde, il se... Seigneur, ne permet pas dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma psychologie, que je ne sois pas rigide. Cette rigidité, tous les os me font mal, tout mon corps me fait mal lorsqu'il s'agit de bouger, de penser aux autres, de donner un coup de main. Accorde-moi d'être capable d'aimer là. Et Jésus demande à tous, jeunes comme plus âgés, d'être jeunes, de devenir jeunes, de rester jeunes. Il y a des nuances dans tout ça. On pourrait commenter à longueur de journée. De ne pas vieillir, voilà ce que Jésus nous dit dans l'enseignement. Ce qui veut dire que Jésus attend que toi et moi, nous ayons un cœur aimant, un cœur généreux, un cœur donné aux autres, un cœur serviable. C'est ça, un cœur de jeune, capable d'aimer. Et c'est automatiquement un cœur qui est joyeux, et souple, et sincère, et simple, sans masque, sans apparence, sans veiller au quand dira-t-on. On fait, on fonce, même si on se trompe. Parce qu'on est content aussi de demander pardon lorsqu'on reconnaît qu'on s'est trompé et qu'on ne défend pas une image de marque, laquelle, devant qui, pourquoi faire? C'est celle de Dieu qui nous intéresse. Agir face à Dieu, c'est tout ce qui compte. Sinon on est, il y a une fille là, je me tiens de telle façon. Il y a telle autre fille, je me tiens encore d'une autre façon. Il y a celle-ci, je m'en fiche. On dit parce qu'on est capable d'être vraiment des ridicules, enfin des acteurs très mauvais, très mauvais. Et ça ne sert à rien. On ne fait qu'abonder dans le mauvais sens du terme. Encore autrement dit, le Christ ne veut pas que nous nous découragions. Une personne qui se décourage, c'est une personne peut-être qui est fragile psychologiquement. Donc et ça, on n'y peut pas trop. Ou on peut lutter, on se donne des moyens, on prend des cachets, on voit le psy. Mais je dis de façon générale, sans qu'il y ait une pathologie derrière. Mais se décourager, c'est perdre espérance, c'est perdre l'optimisme de la vie, c'est ne pas vouloir se battre, de ne pas vouloir se fixer des objectifs. C'est ne pas nourrir en nous cette soif d'aspirer à plus haut, à plus beau, à plus grand. Quelqu'un qui n'aspire pas à plus beau, à plus haut, à plus grand, ce n'est pas un jeune. C'est tout sauf un jeune. Cela apparaît clairement lorsqu'on parcourt la biographie de Jésus. Et lorsqu'on voit que dans les rencontres de Jésus, nous passons au petit B ou au grand B, n'est-ce pas? Il suffit de ces quelques traits que nous venons de tirer de la parabole pour dire, ça me suffit, dis donc, pour un examen de conscience, pas mal, et pour demander des tas de choses qui doivent changer peut-être chez moi. Nous voyons la vie du Christ, lorsqu'il rencontre dans différentes circonstances, et nous voyons très clairement les personnes qu'il aime particulièrement. Si le premièrement c'était le Christ qui nous enseigne, par les paraboles surtout, là c'est le contact du Christ avec le jeune en chair et en os, mais qui a un esprit, une âme, une intelligence, une volonté, une vie. Je m'inspire du numéro 17 du document du Saint-Père, de l'exhortation apostolique. Pour le point précédent, je me suis inspiré du point numéro 12. Quelques lignes suffisantes. Là, du numéro 17. Et en préparant ça, je me disais, tiens, il y a les trois synoptiques, comme tu sais très bien, les trois évangélistes sur quatre, qui racontent avec un schéma relativement proche. Il y a beaucoup de choses communes qu'on appelle les sunes, hein, qui font une synthèse, enfin, on peut rapprocher leurs enseignements, Matthieu, Marc, Luc. Saint Jean, c'est à part, c'est vraiment à part. Les trois synoptiques racontent dans leurs évangiles une rencontre de Jésus avec une personne. Très intéressant. Tu me vois venir, chapitre 19, chapitre 10, chapitre 18 de ces trois évangélistes. Le Christ rappelle à ce jeune qu'il faut vivre les commandements. Et le sympathique interlocuteur répond, « Mais tout cela, je l'ai observé dès ma tendre jeunesse. » On imagine tout petit, 4, 5, 6 ans, en train de faire ses prières, d'être vraiment le juif rigolo, juste, tout petit là, fidèle, admirable. Ça et ça, ça, je l'ai fait depuis tout petit. Sympathique. Et une remarque intéressante s'impose, me semble-t-il, ici et maintenant, devant vous, jeunes étudiants. Tu t'y attendais peut-être pas, cette première remarque, mais c'est intéressant. On voit que ce jeune va vers le Seigneur, rencontre le Seigneur, et à l'invitation, vit les commandements, et bien il dit qu'il les a vécus. Quelle est la remarque que je voulais vous faire? Soyez fiers d'être pratiquants. Soyez fiers d'être réglo. Soyez fiers de vivre les commandements. Ne regrettez pas de passer votre jeunesse en faisant un bon usage. Ne regrettez surtout pas ces années présentes qui sont les vôtres. Vous êtes là, où vous essayez d'être bon, où vous essayez d'être fidèle, où vous essayez d'être pieux, Vous, jeunes étudiants, où vous essayez de lutter pour être plus fidèles, pour vous convertir aussi fidèles à cet enseignement qu'on vient de voir dans le petit A de la méditation, en vous convertissant, en luttant, en vous confessant, en n'abandonnant pas le combat, en ne jetant pas l'éponge. Soyez fiers de ça. Parce que parfois on est fou au point de loucher un petit peu sur les gens qui ne vivent pas bien et de regretter presque de faire du bien. En disant, je suis en train de louper des choses que les autres font. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce que vous loupez? Parce que des jeunes de votre âge font tout et n'importe quoi sans respecter les commandements de Dieu. Et ce jeune de l'évangile, des évangiles synoptiques, eh bien, il dit, je vis depuis tout petit et je suis fier de vivre les commandements et je m'applique pour les vivre. Mes chers amis, ne regrettez rien. Bien au contraire. Ne soyez pas fous. Ne cherchez pas des expériences qui vont vous faire pleurer tout le restant de votre vie. Ne louchez pas sur tel ou tel comportement qui est dégradant, qui est peut-être à la mode et qui statistiquement a les plus gros succès. Le pape rappelle l'une des affirmations les plus connues de saint Augustin, qui est une référence parce que c'est une des intelligences, peut-être la plus grosse intelligence de l'histoire de l'Église. C'est probable. En tout cas, comme type d'intelligence intuitive, incisive, géniale, certainement. L'homme le plus brillant, comme tu le sais, l'auteur le plus cité dans l'histoire. Tout confondu. Profane, donc païen ou catholique. Saint Augustin. Et le pape rappelle une des phrases emplies de contrition et de regret d'amour. Vous voyez, les génies, les saints, les grands, ce sont des gens qui ont vécu une contrition, mais très sincère, qui étaient contents de demander pardon et de recommencer et de repartir. La phrase de saint Augustin, « Je t'ai aimé bien tard, beauté si ancienne et si nouvelle, je t'ai aimé bien tard. » Saint Augustin, en lisant l'évangile certainement dans les synoptiques, en lisant l'histoire de ce jeune homme riche, a dû beaucoup pleurer et beaucoup prier, même après coup, 4 siècles plus tard, en disant, j'espère que ce jeune homme qui a rencontré le Christ plus tard, il s'est converti une seconde avant sa mort, parce qu'il a raté quelque chose. Il était si bien parti en vivant une jeunesse pure, belle, pieuse, de travail bien fait. Et après, il a tourné le dos. Jésus lui-même, devant lui demande, alors viens à ma suite, tu fais déjà tout ça, regarde les longueurs d'avance que tu as tout ce qu'il faut. Eh bien, les 3 synoptiques terminent le récit de cette rencontre. Nous avançons, il faut aller vite. Avec des propos qui sont proches les uns des autres. Le jeune homme ne veut pas dire oui à l'appel de Jésus, et tournant le dos, s'en va tout triste, habit tristis, en latin. Il ne peut pas en être autrement. Et là, je fais une petite remarque, pas pour faire le savant ni l'érudit, mais qui nous permet quand même d'ajouter une seconde idée. On n'en dit pas beaucoup, vous voyez, hein, mais saint Matthieu et saint Luc concluent comme ceci, à quelques petits mots près, qu'il est difficile à ceux qui ont les richesses de parvenir dans le royaume de Dieu. Oui, il est plus facile à un chameau, parce qu'on était petit, on a toujours été intéressé par le truc, il est plus facile à un chameau d'entrer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le règne de Dieu. C'est clair. Donc, une allusion directe à la difficulté d'aller vers Dieu, le préférant, la difficulté de le préférer, de le choisir, par rapport aux richesses, au pouvoir, aux biens matériels. C'est clair. Là, c'est la richesse dont il est question. Intéressant pour saint Marc, qui, tout en disant en gros la même idée, est plus bref, il est toujours plus bref, et qui fait presque peur. Par contre, saint Marc, parce qu'il parle directement de la grande difficulté, non pas d'avoir des richesses, de préférer les richesses et le pouvoir et les honneurs, tout ça, mais si de la grande richesse en soi d'entrer dans le ciel. Il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Et si on ne rentre pas, et si on n'est pas fidèle, et si on n'est pas, on vit pas les commandements, c'est parce qu'on choisit d'autres choses, ça va de soi, qui sont ma richesse à moi. Je dis non à Dieu parce que je choisis autre chose. Donc, quoi qu'il en soit, cette difficulté en soi, et dans d'autres passages, le Christ sera très net pour dire, pour aller au paradis, il faut s'accrocher les gars, il faut s'attacher, et puis la ceinture est bien serrée en plus, hein. Il faut faire des loopings de la vie, il faut faire des acrobaties, parce que la vie exige cela. Il faut être bien attaché, ce n'est pas automatique. Tout ce que nous avons évoqué ci-dessus, dans le petit a, les paraboles, ce que le Christ nous enseigne, serait certainement à reprendre ici. Nous avons dit, dans les paraboles, je ne recommence pas à dire tout ce que... Mais le pape, à l'aide du texte du pape, nous avons dit quelles sont les qualités du cœur qu'il faut avoir pour comprendre les enseignements du Seigneur, pour comprendre qu'il faut être capable d'aimer et de se donner et d'être serviable. Comment faire pour ne pas vieillir? On a réfléchi sur la théorie. Et là, dans la pratique, nous voyons comment le Christ dit « Toi, viens. Toi, suis-moi. Toi, n'aie pas peur des exigences pour entrer dans le royaume des cieux. » Donc, on pourrait appliquer ici ce qui pourrait certainement tenir en une petite et brève phrase. Ce jeune homme qui rencontre le Christ, que le Christ rencontre, que le Christ cherche, que le Christ invite, que le Christ aime. Parce que, texto, c'est dit, et Jésus l'aima. Ce jeune homme avait renoncé, autrement dit, à sa jeunesse. Ce jeune homme sympathique, qui vivait les commandements depuis tout petit, il n'avait pas compris l'essence des commandements, l'essence de la prière, l'essence du service, le sens de sa charité, à sa façon, cet amour de Dieu, parce qu'il y avait sa religiosité, était celle d'un vieux qui n'est pas capable de se mettre à la suite du Christ, qui n'est pas capable de vivre des aventures. Tout au long de la lettre apostolique, n'est-ce pas, ou l'exhortation apostolique du pape, il est question de cela. Faites, soyez fous, lancez-vous, n'ayez pas peur, allez-y. Jean-Paul II le disait à sa façon, Benoît XVI a pas mal répété ce que Jean-Paul II disait, et puis ce pape le dit d'une autre manière, mais la même chose, n'ayez pas peur, foncez les jeunes. Si vous vous trompez, vous releverez, et vous aurez des genoux pelés, tout ça, d'accord, mais allez, on vous mettrait des pansements, et hop, c'est pas grave ça. Et si c'est grave, ben, on dort moins bien une nuit, deux nuits, et puis voilà. Et puis la prochaine fois, on fait ce qu'on peut. On termine notre méditation. Jésus a eu bien d'autres enseignements paraboliques, hein, et bien d'autres rencontres avec des jeunes. Vous voyez, on a fait deux trucs, et puis la méditation, c'est terminé. Elles sont à approfondir, je pense, chacun de son côté. Même si je pense que le pape n'a pas choisi par hasard les choses que nous avons suivies docilement. Mais pensez d'autres enseignements qui sont très puissants avec des jeunes. Les 10 jeunes filles sages et les 10 qui sont étourdies, ou 5 et 5, peu importe, hein, imprudentes, qui n'ont pas l'huile, qui n'ont pas la charité, il leur manque l'essentiel. Donc elles font en gros apparemment tout ce qu'il faut, mais elles ne font pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut faire partie des prudents, des justes, des intelligents. D'autres rencontres du Christ, cet enfant mort d'une veuve que Jésus tire du sommeil de la mort, ou encore la fille de Jaïrus que Jésus ressuscite également, parce que il faut se laisser ressusciter par le Christ. Toi, je te le dis, lève-toi. Le Seigneur le dit aux morts, mais aux morts corporelles, c'est rien, mais surtout aux morts spirituel, parce qu'on peut être mort, parce qu'on peut pas, on peut ne pas respecter vraiment le jeu, parce qu'on peut tricher un petit peu, parce qu'on vit un petit peu à côté, et le Christ dit, écoute, tu as besoin de ressusciter, tu as besoin de quitter ton état lamentable, parce qu'on peut être dans un état lamentable, l'air de rien, ou en sauvant les apparences. Attention, attention. Vierge Marie, toi, évidemment, jeune, si jeune, 14 ans, maman, fidèle, si fidèle, la plus fidèle de toutes et la plus fidèle de tous, Vierge Sainte, accorde-nous de correspondre à ce que Dieu veut de chacun de nous. Apprends-nous, ô notre Mère, à être jeune, à avoir un cœur jeune, un cœur qui sait aimer sans mesure. Apprends-nous, ô Mère, à toujours dire oui aux attentes de la Sainte Trinité. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Thank you.